Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est un plan de soutien massif, 8 milliards d'euros au total que le président de la République a annoncé cet après-midi pour la filière automobile française. Comme partout dans le monde, le secteur automobile en France s'est retrouvé à l'arrêt à cause des mesures de confinement prises pour limiter la pandémie de coronavirus. Les constructeurs ont vu leurs ventes stoppées du jour au lendemain et les chiffres pour l'année s'annoncent particulièrement mauvais. Il s'agit d'écouler les stocks, éviter des fermetures d'usines tout en favorisant des véhicules plus propres et en sauvant donc des usines et des emplois localisés en France. Après le coronavirus, faut-il sauver l'automobile? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en discuter, trois invités sont en direct avec nous ce soir par téléphone. Mathieu Flonneau, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes historien, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'automobile, auteur de nombreux livres dont « Choc de mobilité » aux éditions Descartes et compagnie. Guillaume Crunel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes associé en charge de l'automobile et de la mobilité chez Deloitte, célèbre cabinet de consultants. Et Nabil Bourassi, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialiste de l'industrie automobile au journal économique hebdomadaire La Tribune. D'abord, peut-être un petit tour de table. Qu'avez-vous pensé des annonces et du ton d'Emmanuel Macron, Nabil Bourassi?
Écoutez, finalement aujourd'hui, Macron, il a un petit peu fait la continuité d'une doctrine qu'il a développée déjà depuis l'année dernière, puisque sa doctrine, c'est de repositionner l'industrie automobile française sur des choses un peu innovantes, la voiture autonome, la voiture électrique. Hein. Donc aujourd'hui, il a donné un objectif, il a dit, en 2025, 1 million de voitures fabriquées en France qui seront totalement électriques. Moi, je me pose quand même une question fondamentale là-dessus, c'est, il impose donc un chiffre, il impose une méthode, c'est-à-dire des voitures qui seront fabriquées, la propulsion électrique en France et la batterie électrique en France. Et la question que moi je me pose, c'est, qui dit qu'en 2025, la voiture électrique française sera plus compétitive qu'une voiture électrique chinoise, qu'une voiture électrique allemande, si on doit absolument appliquer cette méthodologie, c'est-à-dire cette batterie électrique dont on sait qu'il faut la puissance chinoise pour qu'elle soit compétitive, c'est-à-dire la produire à des millions d'exemplaires. Donc là-dessus, je m'interroge quand même sur ce dirigisme et les contraintes que ça impose quand même pour l'industrie automobile française. Donc après, effectivement, il y a un autre volet qui est de relancer l'industrie automobile française à très court terme, mais c'est plus sur la méthodologie à long terme que je m'interroge.
Alors, on va en reparler évidemment. Guillaume Crunel, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette intervention, de cette annonce, de ce plan?
Écoutez, c'est un exercice de réalisme qui a été réalisé. De manière simple, on a les pouvoirs publics, l'Europe a décidé une transformation de son modèle vers l'électromobilité. C'est un choix qui a été assumé. À partir de ce moment-là, on se retrouve dans une situation où à la fois les groupes motopropulseurs et la batterie représentent la majorité de la valeur du véhicule. Tout ça, aujourd'hui, ça représente quasiment 11% de l'emploi manufacturier en Europe, c'est 30% de la R&D. Si demain, on accepte ou on laisse l'ensemble de ces composants qui représentent la majorité de la valeur du véhicule en dehors de la France ou en dehors de l'Europe, alors on perd une partie significative de ce qui fait notre compétitivité. Donc, après ça, comment y arriver? Est-ce qu'on sera plus compétitif? Est-ce qu'on le sera moins? C'est des vraies questions qui sont là. Maintenant, c'est un exercice de réalisme. Si demain, on veut aller vers l'électromobilité, il faut en maîtriser une partie importante de la chaîne. Et c'est l'objectif qui est donné.
Alors, on va en parler également. Mathieu Flonneau, peut-être aussi votre sentiment sur cette intervention. Puis peut-être une question plus en rapport avec votre travail. Symboliquement et historiquement, l'automobile française, c'est quelque chose qui est dans l'inconscient collectif est important. Et ça, Emmanuel Macron l'a mesuré avant de faire ses annonces.
Ça, c'est une certitude. Et de fait, je vous réponds sur les deux chapitres. C'est-à-dire que, évidemment, la mise en scène de la parole présidentielle sur le sujet est essentielle. Comme en 2008, il y avait eu, à la suite de la crise, déjà une parole présidentielle, comme bien auparavant, et ça c'est le symbole que vous avez rappelé à l'instant, il y avait des prises de position de Georges Pompidou sur la question automobile. Le fait que le président dise que c'est une industrie d'avenir rassure plutôt le secteur. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est la mise en scène d'une intervention chez un équipementier. Et là, évidemment, il y a tout ce réalisme qui vient d'être évoqué aussi, qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que dans la chaîne de valeur aujourd'hui qui produit une voiture, les équipementiers ne sont plus classés en fonction de leur rang. Les équipementiers sont essentiels. Et évidemment, des comptes, quasiment, et c'est aussi la conditionnalité des plans et des mesures qui ont été évoquées, là, des comptes sont demandés aux constructeurs pour garantir la soutenabilité économique des territoires.
L'industrie automobile, Nabil Bourassi, ça représente quoi en France en termes d'emploi ?
Alors, le président de la République l'a rappelé tout à l'heure, c'est 400 000 emplois. Ici, on intègre toute la filière, c'est-à-dire les emplois indirects et aussi les services, on est quasiment à 800 000 emplois, c'est énorme.
Oui. Guillaume Crunel, est-ce que on peut dire que la voiture est too big to fail, comme on disait au temps de certaines banques, au temps de la crise financière de 2008 ? Est-ce que c'est l'idée ?
Je crois que l'idée, c'est plutôt que la mobilité, les transports sont aujourd'hui compris comme un élément, je dirais, crucial, important de l'économie et relève quasiment du régalien en même titre que la défense ou l'alimentaire. Donc je pense qu'on voit aujourd'hui se positionner à la fois la puissance publique française, comme c'est le cas aux États-Unis, comme c'est le cas de manière planifiée en Chine. On est sur des vrais outils de régalien et de souveraineté et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui.
Il s'agit d'amortir un choc qui s'annonce rude. Est-ce qu'on peut déjà le quantifier ? On a déjà une idée là-dessus, Guillaume Crunel ?
Je pense que ce qui vient de se passer là est assez original. C'est la première fois qu'on a de manière symétrique l'ensemble des marchés à l'arrêt. Donc là, on va se retrouver dans une situation de difficulté de trésorerie pour l'ensemble de la filière, avec des phénomènes probables de faillite pour les plus faibles dans ces moments difficiles. La vraie question, c'est la vitesse à laquelle on va sortir de la crise. Et en fonction de la pente, on limitera ou pas la casse au niveau des sociétés.
Nabil Bourassi, et je vais revenir vers vous, Mathieu Flonneau, dans un instant. Est-ce qu'on peut tabler sur des chiffres de quoi ? Moins 20, moins 30% de ventes de véhicules neufs au final sur l'année 2020 c'est à peu près l'idée ?
C'est à peu près les chiffres qui sont retenus effectivement par les experts. On serait sur du moins 20, moins 30. Après, il y a beaucoup d'incertitudes sur la reprise. Est-ce que ce serait une reprise en U, une reprise en V ? Est-ce qu'il y aurait une reprise tout simplement ? Et puis, peut-être aussi une inégalité de reprise, parce que tous les marchés ne vont pas réagir de la même façon. Ils n'auront pas les mêmes ressorts de reprise. Donc, ça va être compliqué. Et puis, alors, il y a quand même un sujet sous-jacent. Je reviens juste un tout petit peu sur la question que vous m'avez posée précédemment sur l'emploi. Il va y avoir des effets sur l'emploi, mais il va aussi y avoir des effets sur le tissu industriel français, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des régions entières qui sont dépendantes de l'industrie automobile française. Je pense à l'Aveyron avec l'usine Bosch de Rodez, ou d'autres régions, l'usine Trémerie, il y a des usines qui alimentent des régions entières, des bassins d'emploi entiers. Demain, c'est plus que l'emploi qui risque d'être affecté, c'est vraiment le tissu social de région entière.
Mathieu Flonneau, à votre connaissance, un coup d'arrêt comme ça aussi brutal, vous en tant qu'historien, c'est la première fois que vous observez ça ?
Oui, et puis c'est une question qu'on m'a posée 50 fois, et effectivement il y a de l'inédit. Il y a de l'inédit dans ce qui se passe là, et les reculs des marchés à l'échelle mondiale, parce qu'il faut avoir la grande image, sont absolument sans précédent. C'est-à-dire qu'on va reculer en Europe, pour raisonner à l'échelle européenne, oui, de l'ordre de 20 à 30%. Aux États-Unis, on attend cela un peu moins, de l'ordre de 15%. En Asie, de l'ordre de 10%. Mais c'est déjà considérable, car l'industrie automobile ne se portait pas forcément si bien non plus en Europe auparavant, et la crise a révélé des distorsions qui préexistaient. Et les choix stratégiques qui sont à faire aujourd'hui, certes, affectent les territoires, mais affectent la nation tout entière. Et vous évoquiez l'image, les représentations, évidemment, c'est tout l'enjeu des mobilités, qui ont été vraiment au premier plan de l'actualité, car rappelons-le quand même, les gilets jaunes, ça en vient, le débat sur l'écotaxe, c'était évidemment quelque chose qui, qualitativement, avait frappé déjà la France dans ses territoires. Il y a énormément d'enjeux qui viennent se greffer sur quelque chose qui n'est pas du transport. On perçoit aujourd'hui la mobilité sociale, culturelle, politique, profondément.
Alors, il y a trois axes, et j'ai retenu personnellement trois axes. Le premier, c'est d'écouler les stocks qui se trouvent actuellement en concession. Il y a beaucoup de voitures qui attendent sur les parkings, Nabil Bourassi, c'est l'idée ?
Oui, c'est ça. Il a dit qu'il y avait à peu près plusieurs centaines de milliers de voitures qui attendent. Donc effectivement, tant que ces stocks ne seront pas écoulés, les usines ne pourront pas repartir. Il y a l'usine, il y a Volkswagen qui avait réouvert ses usines il y a quelques semaines. Il les a aussitôt refermées parce qu'il a trop de stocks à écouler. Donc ça va être un vrai sujet, ça va être écouler les stocks. Et ce qui va se passer, c'est que pour aller écouler les stocks, il est probable que les constructeurs les bradent les voitures. Donc ça va être très compliqué parce que il va y avoir des conséquences derrière, il va falloir gérer ça.
Mais le chef de l'État annonce 1 milliard d'euros pour les 200 000 premières voitures. Alors je vais résumer ça en disant voitures propres. Pourquoi ces limitations? Les précédentes primes à la casse ont coûté trop cher à l'État, Guillaume Crunel?
Je ne sais pas si c'est vraiment une question de... Enfin, c'est une question de coût. Maintenant, il y a une vraie problématique sur ce qu'est sur des mesures à court terme et puis des mesures à plus long terme. Quand on a évoqué les mesures à long terme qui sont plus liées à la restructuration et la transformation de la filière, quand on fait une prime à la casse, quand on fait une prime à la conversion, c'est un choc qui est ponctuel, qui a une vision, qui a pour but de tout simplement dégonfler un stock et permettre d'écouler une marchandise existante. Donc, il est important, comme l'a évoqué Nabil, que ce genre de choses soient limitées dans le temps, tout simplement parce qu'il ne faut pas que les consommateurs se mettent dans l'idée que les voitures ne valent pas leur vrai prix. Ça, c'est un vrai enjeu, sinon on va rentrer dans des mesures qui sont plutôt déflationnistes et pas du tout bonnes pour préparer l'avenir. Donc l'idée de créer un choc de confiance, quand on achète sa voiture, c'est parce qu'on croit en l'avenir. Donc l'idée ponctuellement de créer ce genre de prime, c'est pour les stocks, c'est pour redonner de la confiance, mais ça ne peut être que ponctuel dans le temps.
Oui, c'est pas la première fois, Mathieu Flodeau, qu'on fait des primes à la casse, des primes de conversion, les jupettes, la baladurette. Est-ce que c'est pas le risque d'avoir derrière, quand ça s'arrête, une chute des ventes parce qu'on met le marché sous perfusion, finalement?
Si, bien évidemment, c'est une relance artificielle, ponctuelle, là, qui est due et qui est nécessitée par une accumulation anormale, évidemment, des stocks. Ça participe quand même d'une image globale de l'automobile. Et là, je voudrais quand même dire que, évidemment, dans les cas d'urgence, dans les moments et les conjonctures graves, on s'y intéresse. Ou alors des moments qui étaient traditionnellement des moments d'exposition importants, au sens strict du terme, même par exemple au moment du mondial de l'auto, voilà, on s'intéressait à l'automobile. Et le reste du temps, on ne prête pas véritablement attention, et on ne prête pas attention à ce qui sévit, ça a été rappelé, près de 10% des Français. Et donc, voilà, il faut faire un discours là, de ce point de vue-là, qui soit réaliste, qui prenne en considération, jusque dans les applications légales, les options de mobilité. Car évidemment, on lit beaucoup de commentaires, ça sert à rien d'acheter des voitures propres, ou voire même des voitures, si on nous empêche de rouler. Donc là, il y a des dimensions aussi qui sont à prendre en considération. Et si votre émission s'appelait là justement, la voiture est-elle toujours indispensable, ou nécessaire en tout cas, ça dépend à qui on pose la question et où on pose la question. Donc si on est dans un discours surreprésenté par les grandes villes, évidemment, la réponse n'est pas la même que dans le rural profond ou le périurbain.
Alors, on va évidemment en reparler, mais j'aimerais juste continuer un instant sur les mesures qui ont été annoncées aujourd'hui. Nabil Bourassi, quand vous entendez ce qu'a dit le chef de l'État sur ce 1 milliard d'euros pour 200 000 voitures, le but prioritaire, c'est de soutenir le secteur ou de renouveler le parc? Ce sont des mesures de soutien, en fait.
Ouais, le but premier, c'est de relancer le marché, c'est d'écouler au plus vite ces voitures en limitant la casse, si je puis dire, un maximum, et que les constructeurs reviennent sur un fonctionnement normal de production de voitures, de production à la commande en concession, et qu'on passe donc ce problème du stock, en fait. Et ça, c'est la première urgence, parce que c'est ce qui va déterminer la réouverture, le relancement des lignes de production dans les usines. Et donc, de réembaucher. Alors, je vous rappelle quand même qu'il y a quand même des usines PSA qui fonctionnaient au 3-8, 24 heures sur 24 et quasiment 7 jours sur 7 pour produire des 3-8, des 5-8. Donc, ça, c'est la première urgence parce que c'est beaucoup, beaucoup d'emplois.
Le deuxième axe, et c'est vous qui nous l'avez rappelé tout à l'heure, Nabil Bourassi, c'est que la voiture propre, donc il y a des objectifs chiffrés de production, 1 million de véhicules électriques, enfin non thermiques, à l'horizon 2025, des véhicules plus propres produits en France. Est-ce que c'est un horizon qui vous paraît réaliste, Guillaume Crunel ?
Ambitieux. c'est ambitieux par rapport au volume existant aujourd'hui. Hein. Je vous rappelle qu'on a vendu 50 000 véhicules, grosso modo 50 000 véhicules électriques en France cette année, et à peu près une vingtaine de 20 000 hybrides. Donc, passer de ça à 1 million, on voit le bon. Maintenant, c'est clair que si on veut respecter les objectifs des réglementations européennes sur les émissions de polluants, c'est ce genre de pente qu'il faut respecter. Donc là, il y a une espèce de cohérence entre gérer les émissions qui sont données en termes environnementaux et puis l'adaptation de l'outil industriel et de la production afférente. Donc tout ça se tient, ça reste très ambitieux. Je rappelle juste qu'il faut quand même qu'on ait des consommateurs derrière qui soient prêts à faire ce bond.
Alors, on vous entend un petit peu mal. Je vais donc passer la parole à Mathieu Flonneau. Objectif ambitieux, donc, mais symboliquement, justement, c'est important que ce soit ambitieux.
C'est capital. Il faut nourrir une ambition pour l'automobile et pour l'écosystème routier tout entier, car tout de même, ce qui est aussi à l'arrière-plan et dans le cadre à rien faire, c'est l'investissement en termes d'équipement de la route, l'investissement en termes d'entretien des routes. Et naturellement, c'est tout l'écosystème qui est lié à cette dimension des mobilités terrestres essentielles qui est rappelée en même temps dans ce plan. Alors c'est à l'arrière-plan, on est d'accord, mais c'est solidaire. Et là, il faut que la filière élargisse sa réflexion et devienne véritablement, hors des silos modaux, une réflexion qui fasse de l'automobile individuelle non pas simplement un objet de possession d'autosolisme, mais qui vise à diffuser, diversifier ses usages. Ça, c'était un enjeu qui préexistait à la crise. Et la loi d'orientation sur les mobilités, qui a été si lente à accoucher, l'a rappelé par un effet de réel que la société a imposé, voire les gilets jaunes que j'évoquais tout à l'heure.
Nabil Bourassi, est-ce que c'est parce que ce sont des véhicules à forte valeur ajoutée, autrement dit parce qu'ils coûtent cher, qu'ils peuvent éventuellement être produits en France, ces véhicules d'un type nouveau, électrique, hybride, enfin voilà.
Mais alors, absolument, ça peut être effectivement une façon d'affecter une voiture sur le marché français. Il y a un volet quand même dans le programme présidentiel qui est l'herbie des batteries.
Oui.
L'herbie des batteries, une batterie, le prix ne cesse de dégringoler depuis plusieurs années, il va continuer à dégringoler. Alors, le projet d'herbie des batteries, c'est une batterie de seconde génération qui sera à plus forte valeur ajoutée avec plein de promesses, 800 km d'autonomie, 10 minutes de recharge, mais elle ne sera pas prête en 2025, ça c'est certain. Et effectivement, elle coûtera très cher. Mais même avec cette batterie donc de seconde génération, ce qu'on appelle la batterie solide, là encore, il faudra être en capacité de la produire à des millions et des millions d'exemplaires pour pouvoir en faire baisser le coût unitaire. Je ne suis pas du tout certain que la France soit capable de le faire. Et même d'un point de vue européen, puisque c'est un partenariat avec l'Allemagne, j'ai des réserves. On parle quand même en face de nous, de la Chine, avec son 1,5 milliard d'habitants.
Mmh. Juste pour préciser, Nabil Bourassi, ces batteries de deuxième génération, c'est de l'autonomie augmentée, un poids plus réduit.
Parce
qu'actuellement, un véhicule électrique, c'est au maximum 400 km d'autonomie. Hein, on va dire ça comme ça.
Oui, à peu près. On va dire ça. C'est 400 km d'autonomie, c'est plusieurs heures de recharge. Donc si vous êtes sur le secteur, c'est au moins 8 heures de recharge, voire davantage. Là, avec la batterie solide, on parle effectivement de... c'est des chiffres qui changent, hein, mais on parle de 800 km d'autonomie, entre 600 et 800, et de moins d'un quart d'heure de temps de recharge.
D'accord. Je reviens vers vous, Mathieu Flonneau, parce que
oui.
On m'a dit que vous vouliez réagir.
Oui, si vous permettez, parce que justement, il s'agit de faire un projet dont le patriotisme européen est consubstantiel à l'annonce. patriotisme français, mais européen. Cela vient d'être rappelé. L'Allemagne est aussi mobilisée sur ce sujet. Et il ne s'agit pas, et là, des dirigeants actuels de l'automobile avaient eu ce courage de le dire, il ne s'agit pas de subventionner des véhicules qui seraient simplement motorisés par des batteries chinoises. Et donc ne pas faire de la Chine un cheval de Troie, finalement, qui viendrait prendre, avec une capacité technologique dont elle dispose à cette heure, mais que sur laquelle l'Europe est en retard. Et donc il faut vraiment aussi, là, revoir, et le Covid, la crise du Covid invite à réfléchir des frontières, des protectionnismes, des patriotismes industriels.
Guillaume Crunel, Emmanuel Macron a donc parlé de relocalisation de valeur ajoutée. En creux, est-ce que ça veut dire qu'on laisse tomber définitivement les véhicules les moins chers et qui sont d'ailleurs les plus vendus en France, Clio 208 ?
Je pense pas que ça
c'est déjà le cas, d'ailleurs, ça se fait à l'étranger déjà.
Oui, les petites citadines françaises sont en majorité produites à l'étranger, mais sur le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir un ensemble de nouvelles technologies électriques, des batteries, première génération, et puis plus tard, on l'espère, la seconde. La vraie problématique, c'est qu'aujourd'hui, une batterie, ça fait 30-35% de la valeur d'un véhicule. Vous rajoutez le groupe motopropulseur, vous avez la majorité de la valeur du véhicule qui est aujourd'hui produit par ces deux éléments-là. Relocaliser ces éléments-là en France ou en Europe, ça veut tout simplement dire conserver déjà une grande partie de la valeur ajoutée qui existe aujourd'hui avec les véhicules thermiques. Donc ce qui est en jeu, c'est certes être gagnant dans le monde de demain, ce qui est ambitieux, mais c'est déjà ne pas perdre une grande partie de la valeur qui existe et qui a été préservée chez nous.
Notamment en termes d'usines d'équipementiers peut-être à ce moment-là. Le chef de l'État a été particulièrement directif ou exigeant, il a des demandes précises vis-à-vis de Renault, dont l'État est actionnaire à 15%, et qui va bénéficier d'un prêt garanti de 5 milliards d'euros. C'est d'ailleurs une large part des 8 milliards évoqués par Emmanuel Macron, si mes comptes sont exacts. Est-ce que l'État a les moyens d'imposer, avec ce prêt et son actionnariat à 15%, est-ce que l'État a les moyens d'imposer ses vues à l'entreprise, Nabil Bourassi?
Alors, il a les moyens historiques, parce que jusqu'ici, l'État a toujours été très intrusif dans les arbitrages stratégiques de Renault. Et quand Renault a voulu s'en soustraire, l'État est monté dans le capital pour imposer ses vues. C'était l'épisode Emmanuel Macron, ministre de l'économie, et Carlos Ghosn, patron de Renault. Donc il est monté dans le capital et il a imposé ses vues. Donc aujourd'hui, il est clair que l'État ne va pas donner 5 milliards sans demander des contreparties, parce que le dossier est extrêmement politique. Donc oui, il a les moyens, c'est le premier actionnaire de Renault, et avec 15%, et je crois que maintenant ils sont à 30% de droits de vote. Oui. C'est les droits de vote doubles.
Mathieu Flonneau, c'est important pour l'image du chef de l'État d'imposer. Là, il a été quand même, je le disais, assez directif vis-à-vis de Renault, qui est en difficulté actuellement.
C'est capital parce que, effectivement, symboliquement, Renault, avec les menaces de fermeture d'usine et puis la réalité des fermetures d'usine qui va advenir, socialement, là, il y a une rupture que l'État ne peut pas se permettre dans une période de crise telle qu'on le vit aujourd'hui. Donc Renault, qui a été une vitrine sociale, l'est peut-être moins, mais il faut retrouver là du sens et retrouver, finalement, assurer la société sur ses finalités, assurer les travailleurs sur leur finalité. Il y a une période où on parlait de désespérer Billancourt, évidemment. Jean-Paul Sartre le disait avec l'usine de l'Ouest parisien, mais désormais, il s'agirait de ne pas désespérer Guyancourt, c'est-à-dire le centre de recherche et de développement. Il faut relocaliser...
Encore plus à l'Ouest.
Voilà, encore plus à l'Ouest. Relocaliser tout ce qui est valeur ajoutée, évidemment, de haut prix, de haute qualification, dans les véhicules, la conception doit rester française, ne plus forcément jouer des synergies avec des pays qui étaient sur la carte de Renault internationalement placés avec leur intérêt, mais l'Inde, par exemple, ou la Chine, qui ont leur intérêt, mais évidemment, il s'agit aussi de soutenir Renault, entreprise historique française.
Guillaume Crunel, que vont en penser les constructeurs partenaires de Renault dans l'Alliance, Nissan et Mitsubishi? La question qui est en sous-main, et puis d'ailleurs c'est une question qui dure depuis des années, hein, depuis l'époque où Emmanuel Macron était ministre de l'économie et des finances, ça a été évoqué. La question c'est, est-ce que cette alliance est toujours pertinente avec les objectifs qui ont été assignés par le chef de l'État aujourd'hui? Guillaume Crunel? On a perdu Guillaume Crunel, donc je vais poser la question à Nabil Bourassi.
L'alliance Renault-Nissan aujourd'hui, elle est cruciale pour Renault et pour Nissan, parce que c'est le seul moyen pour eux d'amortir tous les investissements nécessaires justement pour préparer cet avenir. Donc ils ne peuvent pas raisonnablement se séparer, en tout cas d'un point de vue rationnel. Ils peuvent le faire... l'entente ne fonctionne plus, que la confiance est définitivement rompue, effectivement, on ne peut pas faire travailler des équipes d'ingénieurs ensemble s'ils ne se font pas confiance. Voilà, c'était un peu ça, en fait, le vrai danger l'année dernière, c'était cette rupture de confiance qu'il fallait réparer. On ne peut pas dire aujourd'hui que cette confiance est restaurée, ça c'est, on ne peut pas le dire absolument pas, mais ce qui est certain, c'est que les dirigeants et les gouvernements des deux pays, parce que le Japon aussi est plus intrusif qu'on ne le pense, sont absolument attachés à l'alliance Renault-Nissan. Donc demain matin, il y aura des annonces qui sont faites par l'alliance Renault-Nissan pour relancer l'alliance à travers notamment des réajustements, probablement des réajustements de production ici et là, parce que Nissan aussi est en très grande difficulté, des difficultés qui ont commencé avant le Covid hein, d'ailleurs. Pour vraiment répondre à votre question, il faut attendre la fin de la semaine.
Oui, donc on n'a pas encore toutes les informations, mais on sent, Guillaume Crunel, on vous a retrouvé, que il y a des tiraillements entre la France et le Japon, parce que le Japon aussi a des velléités de patriotisme économique et de relocalisation. Est-ce que il va falloir la tisser beaucoup plus serrée, cette alliance, si on veut que ça continue à fonctionner?
Bon, je pense qu'il y a des problématiques nationales propres à chacun des partenaires. Maintenant, il y a des objectifs communs et en tout cas, il y a un principe de réalité qui s'impose, c'est la capacité à générer des économies d'échelle pour pouvoir dégager les marges de manœuvre d'investissement nécessaires dans les nouvelles technologies, dans les batteries, dans les véhicules connectés, autonomes. Donc derrière tous les éléments que vous évoquez, il y a quand même cette obligation, en tout cas cet intérêt à pouvoir jouer sur des volumes très 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 à un certain moment. Donc je pense que ce principe de réalité risque de s'imposer.
Mathieu Flonneau, pour revenir, puisqu'on est pratiquement à la fin de cette émission, sur quelque chose que vous évoquiez tout à l'heure, les règles de distanciation physique dans les transports en commun, la crainte qu'ils peuvent inspirer comme foyer de contamination, est-ce que c'est une chance pour l'automobile?
C'est difficile de s'exprimer en termes de chance dans un moment de catastrophe sanitaire, mais il est évident que là où on voyait des archaïsmes, somme toute, il y a des éléments que les gens, de par leur désir, de par leur choix démocratique, là évidemment, on touche aussi au fondement même de ce qu'est l'automobilisme, c'est-à-dire la recherche d'une vie privée plus individualiste. Et ceci, c'est une tendance biséculaire depuis les débuts de la révolution industrielle, eh bien l'automobile répond à cela. Alors il se trouve que sanitairement, effectivement, elle y répond également, mais attention, il y a également les problèmes de pollution, et donc là, on retrouve le début de la problématique du discours d'Emmanuel Macron, qui est de, évidemment, assurer une soutenabilité écologique à ces nouveaux modèles automobiles.
Merci Mathieu Flonneau, merci également à nos autres interlocuteurs, Guillaume Crunel de chez Deloitte et Nabil Bourassi du journal économique hebdomadaire La Tribune. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Jean-Philippe Thury. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet rfi.fr ou sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Prenez soin de vous et des autres. Et bonjour chez vous.
appel sur